vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial. Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial.
Brûlure acoustique, intoxication musiculaire, inflammation du tympan, le diagnostic est clair. Surconsommation, chanteur en bois et en plastique.
Mais c'est du chimique.
J'adore le chimique. Pour tout ce prix d'aigu, variété musique au boulémie. Pour ceux qui en cachette, mate les clips de Laurie. Pas le choix, faut se mettre à la diète. Boycott, voici la recette. Ma attention à la chute, un naze et ça repart. Un truc qui te fera danser dans les boîtes et les bars. Le jour où t'as le blues, t'es pas bien, t'en as marre, tu fais
chihuahua.
Et ça redémarre. Du congelé, réchauffé, chaque été vite servi. Efficace comme les bonnes idées de Marie. Une chorégraphie simple, par quatre bombes bien sexy. Désolé, j'aime la dinde, mais pas dans ma vie.
Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial. Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial.
On est devenus des consommateurs génétiquement modifiés. Cobaye d'expériences scientifiquement élaborées. Après des manipulations transgéniques multiples, voilà qu'on se met à aimer la nouvelle pop star académique. On se met à regarder son dernier clip en boucle en secret pour pas se faire chambrer, parce que c'est la honte quand même. Et même si c'est indigeste, même si c'est dégueulasse, avec un bon McDo et un verre de coca, ça passe. Et allongé dans notre canapé, on n'en perd pas une miette. On crie au scandale, mais pas question de changer de chaîne un peu. Comme quand on se met à mater l'île de la tentation un peu. Comme à l'époque d'Hélène et les garçons, mais bon, élevé à la soupe chimique et à la merde en grain. On nous gave, on nous conditionne, on nous engraine. Et même le consommateur plus averti se laisse mettre en boîte.
Le c'est de la merde.
Ouais mais c'est ça qui tourne en boîte.
Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial. Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial.
S'il fallait ingurgiter ce qui nous sert sur TF1, y'a longtemps que j'aurais entamé une grève de la faim. C'est pas, je vais faire mon difficile, mon blasé, ma fine bouche. Mais ras-le-bol de leur soupe industrielle servie à la louche. De leur yaourt indigeste à dégueuler dans les chiottes. De leur nouvelle star en top fabriquée dans un loft. Faudrait José Bové à la high school vienne nous aider. Les artistes OGM mettent notre santé en danger.
Je veux de l'artisanal, du bon pain au son à l'ancienne. Pas comme c'est du popcorn qu'on nous fabrique à la chaîne. Denrées périssables à ne pas conserver plus de 3 semaines. C'est les Kleenex, t'achètes tout, t'écoutes et tu jettes. Emmenez-moi au bout de la terre, sur une île déserte. Pas de filles en bikini, pas de caméraman. Seul, avec mon Walkman, avec mes disques de Bob Marley, d'Aznavour et Réam.
Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial. Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial.
Salut à tous, vous êtes sur Zoom Écologie 106.3 sur Fréquence Paris Pluriel. Ce soir, on va parler de train, et d'abord de train avec la présentation d'un bouquin, La fracture ferroviaire, ou pourquoi le TGV ne sauvera pas la SNCF. La France est le théâtre depuis le 18 octobre 2007 d'une nouvelle bataille du rail. Les cheminots, comme d'ailleurs nombre d'agents des autres grands services publics, EDF, GDF, Transports Urbains, se sont massivement mobilisés pour défendre leur régime de retraite, menacé par une mesure gouvernementale prise sans réelle négociation. Mais ils ont bien d'autres raisons de s'inquiéter. La stratégie mise en œuvre depuis quelques années par la direction de l'entreprise, soutenue par les pouvoirs publics, vise un seul objectif, la rentabilité. Le TGV est le vecteur essentiel de cette stratégie au service de ceux qui veulent aller vite et loin. L'incontestable réussite technologique de cette politique et les gains de temps qu'elle permet laissent sous le boisseau des réalités moins reluisantes. Jungle de trafic en constante augmentation, correspondance chaotique, délaissement des lignes secondaires de plus en plus transférées aux régions, réseau classique en déshérence et dégradation accélérée du réseau ferré classique, la SNCF qui a choisi de concurrencer l'avion, ressemble de plus en plus à une compagnie qui dessert les métropoles en traversant à 300 km/h des territoires délaissés. Loin de tout fatalisme, le livre de Vincent Doumerou démontre que cette stratégie n'est pas la seule possible. La Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche ont adopté à bien des égards d'autres modes de développement fondés sur la densification de leur réseau, des tarifs souvent plus bas, des correspondances harmonisées, des dessertes régulières et nombreuses. À l'inverse, la politique suivie par la SNCF laisse la voie libre aux tout-routes avec les conséquences écologiques que l'on sait. La fracture ferroviaire s'élargit de plus en plus. Est-il encore temps pour un service public fragilisé et menacé de la résorber ? Donc voilà, l'auteur Vincent Desmaroux, c'est un passionné de chemin de fer qui correspond régulièrement au site intermodalité.com et donc c'est aux éditions Atelier. Et on va écouter ça tout de suite.
Alors, tu viens d'écrire un livre qui s'appelle La fracture ferroviaire.
Oui. Donc, alors, donc il est sorti en 2007, en fait, mais depuis, tout ce qui s'est passé depuis, je dirais, enfin, confirme et même au-delà, enfin, tout ce que j'ai dit, à tel point qu'aujourd'hui, les dirigeants de la SNCF eux-mêmes parlent du TGV en modèle dans l'impasse, donc ce qui correspond exactement à ce que j'explique dans le livre, à ma thèse simplement. Moi, quand je l'ai écrit, c'était le temps où la SNCF fonder des communiqués triomphalistes sur « À la gloire du dieu TGV ». Donc, j'ai un petit peu été, disons, précurseur de la mode, on va dire. Et donc, c'est tant mieux, ça valide mes thèses. Et donc, c'est effectivement, il s'appelle la fracture ferroviaire. À savoir la fracture entre, disons, la construction d'un réseau TGV. Donc, on sera à plus de 2000 km dans un mois, puisque dans un mois, il va être inauguré la ligne TGV dite Rhin-Rhône, donc 150 km du côté de Mulhouse et Besançon. Et pendant ce temps, l'entretien et l'exploitation du réseau ferré classique a été négligé, bon, ce qui est aujourd'hui d'ailleurs de l'aveu général. Aujourd'hui, ça n'est plus un scoop de dire ça. Et ce qui fait que, comme je disais à l'époque de mon livre, on a finalement des établissements ferroviaires, c'est-à-dire la SNCF et le gestionnaire de réseau RFF, qui se vantent d'avoir le train le plus rapide du monde, les records mondiaux de vitesse, le dernier en date en 2007. Et d'un autre côté, on a des services, que ce soit en corail, en fret, et même en TER, on pourrait en parler, qui sont, assez médiocres. Non seulement qui sont médiocres, mais qui se dégradent, à cause d'un certain nombre de raisons dont on pourra parler, dont toutes ne tiennent pas d'ailleurs à la SNCF, puisqu'il y a aussi des problèmes d'aménagement. Donc on éloigne les gens des lieux d'habitation, des lieux de bureau, donc ça, c'est ça aussi qui sature le RER, donc ce n'est pas uniquement la faute de la SNCF. Mais on a aussi une grande négligence pour le fret et le corail, ce qui fait que, par exemple, sur les 15 dernières années, en trafic fret, la France est disons, parmi les pays d'Europe un peu comparables, d'Europe de l'Ouest, on va dire, le trafic de fret qui a le plus baissé. Pratiquement. Donc il y a vraiment un contraste et il y a un problème de... Non pas, le problème c'est même pas le fait d'avoir en soi construit 2000 km de ligne de TGV, c'est d'avoir mal conçu l'articulation entre les deux, quoi. Avec un effet d'exclusion, le TGV ayant un effet d'exclusion sur le reste du réseau.
Est-ce que c'est des choix qu'on a fait dès la construction du TGV ou c'est venu progressivement ?
Alors... C'est difficile à dire. Disons que moi, je ne crois pas qu'il y ait un moment en grand Manitou qui ait dit on va consciemment abandonner les trains classiques et on va favoriser le TGV. Je pense que c'est venu, les économistes appellent ça une politique implicite, c'est-à-dire une politique qui est menée de fait. Donc on a commencé, je pense, la première ligne, c'était la ligne Paris-Lyon. Alors elle répondait à un certain nombre de... déjà la concurrence de l'aérien, c'était quand même ça une des premières raisons. Elle répondait aussi à un problème, propre à cette ligne, c'est-à-dire le fait que la vieille ligne qui passait par Dijon était saturée. Dans les années 70, personne ne... au départ, ça paraissait comme un truc un peu d'allumé, à la limite, au début des années 70. Finalement, le pouvoir politique a donné son accord. Et au départ, c'était cette ligne-là qui était programmée. Bon, et après, dès 1980, le président François Mitterrand, à l'inauguration, a annoncé l'ouverture en fait, de la ligne Atlantique, l'ouverture du chantier de la ligne Atlantique. Et après, on est rentré un peu dans une spirale, à savoir avec le TGV Nord ensuite, et une spirale dans la mesure où c'est une hausse de l'endettement, donc une hausse de l'endettement qu'on paye encore aujourd'hui. Et effectivement, ben, progressivement, un abandon des trains corail parallèles, c'est-à-dire avec donc du coup plusieurs conséquences. Donc déjà, l'usager n'a plus le choix, en fait, entre ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, on n'a plus le choix. Bon, la personne qui voudrait, sur un parcours TGV, prendre un train classique, bon, ben, bien souvent, il ne peut pas, ou il y a beaucoup de correspondances. Et ensuite, le réseau finalement classique est finalement dérentabilisé, puisque les liaisons les plus rentables, c'est-à-dire entre grandes villes, finalement sont aspirées par le TGV. Donc il y a un effet d'aspiration, en fait, du trafic vers les lignes de TGV. Voilà.
Est-ce qu'il n'y avait pas encore de plan de développement précis sur la France quand il y a les premiers TGV? Parce que ce qu'on remarque, c'est là, les trois lignes que tu nous cites, elles vont toutes vers Paris. Donc c'était encore une accentuation d'un modèle centralisateur qui était planifié ou...
Alors, c'est vrai qu'il y a... c'est vrai que ça, c'est une technique ultra-moderne, finalement, qui renouvelle en fait des schémas qui datent du 19e siècle, voire d'avant, parce que la centralisation, c'est même les rois capétiens à la limite, donc c'est quand même un contraste qu'on peut noter. Alors, personnellement, bon, là c'est pareil, personne n'a dit il faut un modèle centralisateur sur Paris, etc. Bon, simplement, le problème, c'est qu'il y a une réflexion commerciale aussi en termes de trafic, et Paris étant de très loin la plus grande ville de France, si vous voulez faire beaucoup de trafic, il faut des lignes qui convergent vers Paris, quoi. Donc, effectivement, aujourd'hui, le délire, c'est que pour aller de Lille à Strasbourg, on vous fait passer par Paris. Il n'y a plus du tout de ligne transversale. Donc, alors...
Tu as dit beaucoup de trafic. Alors, est-ce que ça correspond à l'investissement dont tu parlais ou, parce que le train était encore un service public, donc pour but de transporter des gens d'un point A à un point B. Alors, pas forcément à être rentable. Par contre, tu nous as parlé d'une dette qui était forte, et là, donc, des trajets vers Paris, parce qu'il fallait beaucoup de trafic. Est-ce que...
Alors déjà, est-ce que c'est encore un service public? Bon, officiellement, la notion de service public, elle apparaît dans la LOTI. Donc la LOTI, c'est la loi d'orientation sur les transports intérieurs, donc du 30 décembre 1982. Et alors, la notion, elle n'existe plus pour les marchandises, puisque le secteur des marchandises a été ouvert à la concurrence. Elle existe encore pour les transports de voyageurs, mais en fait, c'est de plus en plus théorique, puisque, bon, comme tout le monde le sait, la SNCF a adopté un mode de gestion très calqué sur l'avion. D'ailleurs, ça lui est beaucoup, beaucoup reproché. Moi, c'est une des choses que je lui reproche. Donc, je ne suis pas certain que ce soit encore un service public, quoi.
Est-ce que tu peux développer sur ce modèle avion pour le train?
Oui, alors en fait, c'est pas moi qui ai inventé l'expression, mais je parle dans le livre d'avion sur rail, parce que bon, on pourrait très bien considérer des trains qui aillent plus vite, mais sur des distances moyennes. Bon, bref, on pourrait très bien prendre un autre système, à la limite, on aurait rien pu concevoir, à partir de la même technique de la grande vitesse, concevoir un système complètement différent qui aurait pu se viser, à la limite, un peu comme un réseau autoroutier, à la limite, quoi, qui aurait pu se viser l'amélioration des performances sur des distances moyennes, voire plus courtes, quoi. Bon, bah, là, c'est pas ce qui s'est passé, puisque, effectivement, au départ de Paris, ce qui est recherché, c'est l'effet de vitesse au maximum avec les autres grandes métropoles. Alors, il est vrai que sur les liaisons terminales, il y a aussi des villes moyennes qui sont desservies. Arras, pardon. Arras, dans le Pas-de-Calais, est desservie par le TGV. Dunkerque est desservie par le TGV. Hasbrouck, qui n'est quand même pas une métropole, qui est une sous-préfecture, une ancienne sous-préfecture du Nord, est desservie par le TGV. Mais ce qui est quand même surtout recherché, c'est des liaisons un point à point entre Paris et les grandes villes. Accessoirement entre grandes villes aussi. Et il y a également un système commercial avec la réservation obligatoire, la tarification en temps réel, il y a ce qu'un spécialiste avant moi a appelé la singerie du transport aérien. Le problème que pose la réservation obligatoire et ce qu'on appelle le yield management, c'est-à-dire la tarification en temps réel, c'est que en théorie, c'est fait pour tout le monde, puisque n'importe qui peut réserver son voyage très à l'avance et payer un billet à bas prix, puisque c'est beaucoup basé sur l'anticipation. Les gens qui s'en tirent le mieux, c'est les catégories les plus mobiles, c'est-à-dire bien souvent les cadres. Donc, Donc, de fait, ça favorise quand même des catégories sociales relativement favorisées. Et ça, on le retrouve dans les chiffres tout à fait officiels qui sont ceux de RFF. Donc Réseau Ferré de France. Puisqu'en 1994, par exemple, sur le TGV Nord, donc à l'époque, les cadres et professions intellectuelles supérieures, c'était 8% de la population et c'était 45% de la clientèle du TGV Nord. Et avec, j'irais symétriquement à ça, une sous-représentation des ouvriers employés et des artisans et commerçants qui sont moins mobiles. Donc il y a vraiment une grosse surreprésentation des couches sociales, disons, aisées financièrement et culturellement, quoi.
On peut le retrouver aussi ça dans la configuration du TGV ou sur, je ne sais plus le nombre exact de wagons, mais il y a une proportion qui n'est pas moindre de la première classe et du wagon-bar qui ne sont pas forcément celles qui sont faites pour transporter le plus de personnes.
Oui, alors en plus, une des raisons qui fait que le TGV rapporte plus à la SNCF, c'est que la proportion des voyageurs de première classe par rapport à un train corail augmente. Donc il y a plus en proportion, il y a plus de voyageurs de première.
Comment est-ce que c'est vécu cette évolution vers le tout TGV par les travailleurs du rail?
Ah, alors là, je dirais que c'est une bonne question. Je pense que les cheminots, en fait, la composition sociale des cheminots, je dirais, reflète celle de la population. Donc il y a des gens du bas de l'échelle, du milieu de l'échelle, des cadres, etc. Bon, en général, je pense que les cadres, en général, ont plus tendance à adhérer, en fait, à la politique de l'entreprise. Les cheminots de base, surtout si quelqu'un qui travaille au fret, par exemple, ou au transport régional, va plus se sentir exclu, à la limite, va plus partager les critiques qu'on peut faire au TGV. Mais bon, ça, à la limite, je laisse plus la parole. À mon avis, les organisations de cheminots sont plus compétentes que moi pour dire. À la limite, ça, c'est une opinion que je donne qui n'engage que moi.
Mais il n'y a pas eu de prise de position des organisations sur ces questions?
Alors, les organisations, alors là, encore une fois, elles sont plus compétentes que moi pour parler, mais ce qu'elles disent beaucoup, c'est les TGV, c'est bien, un peu une fierté d'entreprise, un petit peu, parce qu'évidemment, c'est quand même le fleuron de la SNCF, mais en même temps, mais il faut aussi investir dans d'autres domaines, ce qui n'est pas absurde comme point de vue.
Et donc là, on ouvre encore des chantiers TGV, on a parlé de la ligne Rhin-Rhône, on ouvre... tronçons s'agrandissent. Est-ce que la SNCF a une politique de développement en dehors du TGV ou est-ce que une remarque qu'on a faite au début, que tu nous as proposée, c'est que le TGV excluait les autres trains et est-ce que ça se confirme encore aujourd'hui, notamment après la reprise des TER par les régions qui se vantent aussi de travailler sur des connexions entre différents réseaux, voilà, est-ce qu'on est dans l'ordre du discours ou est-ce qu'on est vraiment sur une politique TGV?
Alors en fait, alors le problème, tu as dit la politique de la SNCF. Alors le problème, c'est que la SNCF joue un rôle évidemment central dans le système ferroviaire d'aujourd'hui français. Désormais, on n'est plus au temps où il n'y avait que la SNCF qui maîtrisait tout, etc. La maintenance du réseau, l'exploitation, les trains régionaux, etc. Il y a plusieurs acteurs. En fait, essentiellement du fait de la libéralisation qui va bientôt venir, enfin qui est déjà en cours en fait. Mais par exemple, le réseau ferré, il est géré par Réseau Ferré de France, qui est un autre établissement qui a été créé en 97. Par exemple, il y a un établissement qui certifie la sécurité du matériel roulant, qui s'appelle l'EPSF, donc qui a été créé en 2006. Donc avant ça, c'était une mission de la SNCF. Il y a les régions, comme tu l'as dit, qui maîtrisent le TER. Donc ça avant, les trains omnibus, comme on disait, c'était la SNCF. Donc la SNCF ne maîtrise plus toutes les stratégies.
D'accord.
Alors justement, le paradoxe avec les nouvelles lignes TGV, c'est qu'en fait, elles répondent de plus en plus à une demande politique des élus locaux, pour des raisons, je pense, beaucoup de liens.
Des enclavements, comme on dit.
Voilà. Ça c'est la justification, mais il y a sûrement aussi des liens avec les groupes de BTP. On l'a bien vu d'ailleurs avec l'affaire... C'est un fait divers, mais l'affaire de Meurs qui a eu lieu dans le Nord avec Eiffage et Eiffage.
Est-ce que tu peux la rappeler?
Alors l'affaire Le Bonne Meurs judiciaire, c'est un peu hors sujet, mais simplement ce que j'ai vu dans le journal du dimanche, c'est que par exemple Eiffage payait financer une partie de la fête annuelle de l'association des maires de France. Donc Eiffage, un gros groupe de travaux publics. Donc il y a sûrement beaucoup de liens comme ça. Alors je ne dis pas qu'il y a de la corruption, enfin il y en a sûrement, mais qu'il y a de la corruption au sens judiciaire, ça c'est un problème juridique. Mais il y a quand même des liaisons un peu, je pense, un peu incestueuses, on va dire, entre les grands groupes de BTP et les élus locaux. Et aujourd'hui, les nouvelles lignes de TGV, enfin on arrive au paradoxe que dans les années 70, quand la SNCF présentait son TGV, les élus locaux se méfiaient. Et par exemple, le maire de Dijon, par exemple, à juste titre, disait « mais on va être exclu » parce que Dijon, avant, était un point d'étape entre Rennes, Paris, Lyon. Et là, c'est desservi par arrête de poisson, comme on dit. C'est-à-dire c'est une ligne qui sort de la ligne de TGV et qui va vers Dijon. Donc Dijon n'est plus une étape entre Paris et Lyon, ce qui change quand même un peu la... Et aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est les élus locaux qui demandent, et les élus régionaux qui demandent toujours plus de TGV. Et la SNCF qui leur dit « attention ». Attention, c'est pas rentable, attention, attention quoi. Donc il y a un peu une inversion des rôles quoi.
Alors au niveau sur le terrain, des élus locaux et de la population, on peut voir aussi deux mouvements, à la fois des élus locaux qui demandent les TGV. Moi personnellement, je l'ai bien vu avec l'arrivée du TGVS et des gros panneaux devant la gare de Nancy, vos bureaux à 2 heures de Paris, et donc des immeubles qui sont sortis de terre à ce moment-là. Mais il y a aussi des mouvements, notamment d'écologistes qui se battent et qui disent on veut pas de TGV parce que le TGV de toute façon s'arrête très peu et donc le mythe du désenclavement ou de la connexion en fait et certains gens y adhèrent pas quoi.
Oui, alors le TGV Est, disons, mon livre est sorti 3 mois après le lancement du TGV Est, donc j'ai vu ça en direct. Effectivement, il y a beaucoup de villes qui ont été beaucoup moins desservies qu'avant, et d'ailleurs y compris Nancy, puisque en fait Nancy est exactement dans la même position que Dijon sur la ligne, c'est-à-dire c'est un ancien point d'étape entre Paris et Strasbourg en fait, qui s'est trouvé exclu et qui maintenant n'est plus, les trains Paris-Strasbourg ne servent plus à Nancy, sauf un aller-retour par jour, ou deux allers-retours par jour, enfin bref, bon, ça devient une exception les arrêts à Nancy, et c'est desservi par un train qui ne va pas plus loin que Nancy ou qui va jusqu'à Épinal ou enfin jusqu'au dans les Vosges, ou Remiremont, enfin je sais plus. Et donc, effectivement, même Nancy a perdu beaucoup d'arrêts. Et bon, les villes plus petites, comme les sous-préfectures, Lunéville, etc., encore plus. Et le grand paradoxe, c'est que les élus présentaient le TGV comme, par exemple, un moyen d'arrimer la Lorraine à l'Europe. En Lorraine, c'était ça le grand mot. Mais c'est le contraire qui se passe, puisque Metz, avant, était un point d'étape sur les trains, sur la ligne vers Francfort. Et il ne l'est plus. Maintenant, les trains...
Entre Nancy et Metz,
voilà, TGV. Voilà. Et Nancy était un point d'étape entre Paris et Munich, et il ne l'est plus non plus. Donc finalement, ils sont plus isolés, que la Lorraine est plus isolée du reste de l'Europe qu'avant, finalement.
D'accord. Est-ce que les écologistes reprenaient ça dans leur critique, ou alors on était vraiment sur quelque chose très anti-grande infrastructure, on va dire, où là, toute une communication... Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé réellement sur le terrain, mais sur... La remise en état du patrimoine naturel après les travaux.
Ah oui.
Voilà, est-ce que...
Du patrimoine naturel après.
C'est-à-dire, une fois que la ligne, après les travaux, la SNCF devait refaire des mares, replanter des arbres, RFF. Voilà. Merci de préciser. Alors, ma question, c'était, est-ce que les écologistes avaient une critique du TGV basée sur le changement de la configuration des dessertes et des dessertes des villes, et donc une critique sur le service, ou avait une critique qui était plus axée sur on va dire la protection des forêts, du paysage et...
Je pense que une critique n'exclut pas l'autre de toute façon. On peut avoir les deux critiques, puis il y a aussi des Verts qui sont pour le TGV au motif que ça fait moins de voyageurs en avion, ce qui est vrai d'ailleurs. Sur la ligne Paris-Strasbourg, on est passé entre train et avion de 35% pour le train, 65% à 90-10%. Quoi. Donc, par contre, il n'y a pas un voyageur de moins sur l'autoroute, par contre. Donc ça, il faut le dire aussi. Quoi.
D'accord.
Et juste pour finir, tu disais au début que c'était un modèle qui était remis en cause en ce moment à la SNCF. Alors, c'est sur des critères de rentabilité ou c'est un peu sur tout ce qu'on vient de dire aussi?
Alors en fait, c'est sur des critères de rentabilité parce que bon, le modèle TGV, disons, est confronté à plusieurs problèmes. Donc déjà, tout simplement la crise qui fait que le trafic en 2008, 2009 et 2010 a stagné. Alors en 2011, en fait, il faut savoir qu'ils ont fait un très mauvais mois de janvier, avec moins 3,5%, je crois, par rapport à l'année précédente. Mais après, en fait, les chiffres ensuite ont été meilleurs, en fait, en grande partie à cause des révolutions arabes. C'est-à-dire, les gens sont moins déplacés à l'étranger, donc quelqu'un, mettons, qui serait allé à Djerba en Tunisie, finalement, je vais aller en TGV à Saint-Raphaël, quoi, pour schématiser, quoi. Et le problème qu'il y a, c'est aussi la hausse des péages à RFF, parce que il y a le problème de l'endettement de l'endettement du système ferroviaire. Et RFF, à sa création en 97, a reçu les deux tiers de la dette ferroviaire d'alors. À l'époque, c'était 200 milliards de francs, en francs, on parlait bien en francs. Donc à peu près 30 milliards d'euros. Et aujourd'hui, RFF est endetté à presque 30 milliards d'euros. Et le pouvoir politique, en fait, préfère que pour résorber cet endettement et financer les travaux de régénération, que la SNCF finance plus RFF via les péages, plutôt que ce soit l'État qui débourse, quoi. En fait, il y a un jeu un jeu de bonneteau, on va dire, un petit peu. Et ça, évidemment, comme les péages augmentent, donc les péages réglés par la SNCF augmentent, évidemment, ça mange les marges du TGV.
Alors, quel avenir pour le rail, pour toi, en France ?
L'avenir, je pense... Alors, moi, je suis pour... je défends très fortement... les lignes de TGV, elles sont construites. Simplement, je serais pour que les gares qui sont sans connexion avec le réseau ferré classique, qu'on les mette comme en Lorraine avant hier, c'est-à-dire qu'on les mette au carrefour des lignes pour favoriser les correspondances, au carrefour avec les lignes TER. Je suis pour un gros redéveloppement des trains corail pour les moyennes distances. Et ça coûterait pas très cher puisque les lignes existent déjà. Donc, alors d'autres travaux. Alors un autre point où la France est très en retard. Bon, il y a le fret évidemment, ça j'en ai un peu parlé. Et c'est aussi les RER dans les villes de province. Les villes de province, les gares sont saturées. Par exemple, la Part-Dieu à Lyon est complètement saturée. Et donc en fait, là, ce qu'il faudrait, c'est vraiment de gros travaux d'infrastructure pour accroître, disons, le potentiel de ces gares, la capacité de ces gares, et pour faire des réseaux RER pour les déplacements quotidiens. Et ça, c'est très important. Et ça, par contre, ça coûterait plusieurs milliards. Voilà.
D'accord.
Merci.
De rien, merci à vous.
Qui en veut à la sur le chauffe-eau, qui déclare la guerre au quartier-nerf. Allô les studios, je suis dans le bureau où est interrogé le terroriste de l'UHT. Ultime hyper total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime hyper total gauche, bien pire que la gauche, de toutes les gauches. Ça fait des mois qu'on te suit, toi et ton groupuscule, on sait tout sur ta vie et celle de ta cellule. Tu t'intéresses au train, tu flânes près des chemins de fer, si j'en crois les témoins, t'as même pris les horaires. Dans ta bibliothèque, paraît qu'il y a des bouquins, et d'après notre enquête, t'en as même lu certains. UHT, ultime hyper total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime hyper total gauche, bien pire que la gauche, de toutes les gauches. Fini les projections et les choucroutes parties, l'État dans son action sera direct. Aussi, détournement de brouette, là tu risques 20 ans, à moins que ça soit perpète, si t'avoues pas maintenant. Le procureur constate qu'il y a dans ton garage des tuteurs à tomates, c'est pour les sabotages. UHT, ultime hyper total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime hyper total gauche, bien pire que la gauche, de toutes les gauches. Le jugement est tombé, fini le jardinage, pour toi ça va chauffer, sous les navets, la plage. Une bombe atomique, demain sera lâchée, contre le membre unique de ta communauté. T'étais le premier leader d'un mouvement anarchiste, le seul spéculateur anticapitaliste. UHT,
ultime, hyper, totale gauche. À gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime, hyper, totale gauche. Bien pire que la gauche, de toutes les gauches. Et si les caténaires continuent à tomber, c'est qu'il y a des courants d'air, c'est que le vent a soufflé. Oui, si les caténaires continuent à tomber, c'est qu'il y a des courants d'air et que le vent a soufflé. Qui en veut à la seule ce feu?
Et voilà, on vient d'entendre la Parisienne libérée, ultime hyper totale gauche. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a un bouquin qui vient de sortir à ce sujet sur Tarnac. Voilà, qui raconte un peu les farces cette farce de la DCRI à l'époque. Et tout de suite, on va parler de la ligne Lyon-Turin cette fois-ci, où en Italie, plus de 75 000 personnes ont manifesté encore ce 25 février de Buisseleno à Susa contre le projet de ligne ferroviaire donc de Lyon et Turin. Et rappeler que il y a eu une grosse répression avec beaucoup d'arrestations, des gens qui sont en prison et quelqu'un aussi qui a été grièvement blessé après une chute d'un pylône électrique alors qu'il était poursuivi par la police. Donc ça, c'était le 26 janvier. Et là, on va réécouter quelque chose qui date du mois de novembre, qui parlait déjà aussi de répression. On va écouter Paolo.
Quels sont les liens pour toi entre les transports et l'industrialisme?
Mais il faut distinguer, quand on parle d'industrialisme, d'abord on pense à des usines, à des fabriques, et ça c'est une forme, sûrement c'est une forme d'industrialisme. Mais après, il y a aussi l'industrialisme des infrastructures, des bâtiments, de l'urbanisation. Et aujourd'hui, l'industrialisme des infrastructures, surtout, devient de plus en plus large. Ça se passe parce que dans les vieux pays industriels, l'industrie manufacturière est à son déclin, comme nous savons, et l'industrialisme de l'urbanisation et des infrastructures se pose comme un substitut de l'industrialisme manufacturier, comme le seul substitut possible.
Mais c'est-à-dire parce que les matériaux pour l'infrastructure, ils sont quand même produits.
Aussi pour ça, mais non, il y a deux raisons. Une infrastructure est liée au territoire. On ne peut pas bâtir une autoroute ou une ligne de chemin de fer à grande vitesse en Chine et après la exporter en Europe. Elle est au territoire et ça pourtant, et donc elle ne souffre pas de concurrence. Les matériaux aussi sont disposables largement et en grande quantité. C'est-à-dire, le ciment est fait de sable et gravier et chaque plaine alluviale du monde est un énorme dépôt, si on le considère d'un point de vue productiviste, est un énorme dépôt de sable et de gravier. Alors il y a une limitation de matériaux, il n'y a pas de limitation stratégique, il ne faut pas les aller chercher au Chili ou en Inde ou au Niger. On le trouve pas loin d'où les œuvres sont réalisées.
Et par exemple, pour ce grand projet de TGV, donc, d'où viennent les matériaux?
Ils viendront, pour le côté italien, ils viendront des districts d'extraction de sable et de gravier qu'il y a au Piémont, c'est-à-dire du cours supérieur du Pô, qui c'est un port d'extraction, peut-être aussi de l'air entre les provinces de Turenne, Vercelli et Biella, nord-est de Turenne, qui ont déjà subi des impacts environnementaux très forts pour les extractions. À partir des années 50, on a déjà subi des impacts très forts pour l'urbanisation et dans les derniers 10 ans aussi pour les grandes infrastructures, l'autre vitesse Turin-Milan, les œuvres pour les Jeux Olympiques. Et il y a eu un pic d'extraction de ce matériau dans le pôle d'extraction piémontais.
Et quelles sont les conséquences?
Les conséquences sont, par exemple, sur la qualité de l'eau. Parce que toutes les fois que je fais un trou dans le sol, je vais mettre en communication l'eau qui est dans le sous-sol, la falda.
La nappe phréatique?
Oui, exactement.
La nappe phréatique
avec ce qu'il y a au-dessus, et ça pourtant la fonction de filtre que gravier et sable font, et aussi le terrain, le sol biologique au-dessus d'eux, se perd, il n'y a plus. Et ça dans le meilleur des cas. Dans le pire, le trou où il y avait les sables et les graviers devient une aire d'accumulation de déchets.
D'accord.
Alors nous, au Piémont, nous ne pouvons plus boire l'eau de la nappe phréatique superficielle. Nous devons aller chercher pour boire l'eau de la nappe profonde, c'est-à-dire à plus que 60 mètres, mais souvent à 80 mètres de profondeur, pour boire.
D'accord.
Déjà aujourd'hui.
Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce projet de TGV, où ça en est, comment les décisions ont été prises?
Mais l'idée est très vieille. On peut la faire essayer aux années 80 sûrement, mais au niveau des techniciens aussi avant, aux années 70, l'idée de tunnel de base... faite pour éviter des tracts, des segments avec trop de pendance pour le train. Tous ces raisonnements réservés aux techniciens sont devenus plus largement connus au commencement des années 90. Et c'est-à-dire quand n'était pas encore complètement terminé les travaux de construction de l'autoroute Turin-Bardonnèche, Turin-Fréjus. Mm-hmm. Alors les gens de la vallée avaient mal vécu 10 ans avec les travaux par l'autoroute, et avant que ce travail se termine, leur dit « Ah, mais ça ne suffit pas, maintenant il faut faire le TGV ». Et d'ici l'opposition. L'histoire de comment a été prise la décision à niveau politique est très longue. Elle a porté récemment à la signature du traité entre France et Italie. Il y a eu, je pars toujours du côté italien, il y a eu avant 2005 le projet ainsi dit gauche d'Ora. D'Ora, c'est le fleuve de la vallée de Souza. Le premier projet qui prévoyait le tunnel, le commencement ou la fin, selon le point de vue, du tunnel dans le village de Venaus. Et après, la ligne poursuivait presque en grande partie, toujours en tunnel, dans les montagnes du côté gauche, orographique de la vallée. Tout ça porta à la à la bataille de Venaus de 2005.
Qu'est-ce qui s'est passé?
L'aire du chantier, qui alors était à Venaus, tandis que maintenant a été déplacée à Chiomonte, mais en 2005 était à Venaus, était présidée par des opposants. La police arriva avec des machines à détruire la...
Des bulldozers?
Des bulldozers à détruire la barricade. La barricade, mais deux jours après, une grande manifestation déplaça le présidium de la police. Le présidium de la police. Alors, et après, dans ce jour, dans ce mois, il y eut aussi d'autres scontris, d'autres... Dans la vallée, à Turin, d'autres manifestations, et comme ça. Alors, tout ce fut institué l'incendie observatoire pour la ligne, ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Le projet fut changé. Maintenant, considérer la non-disponibilité du commun. Du commune de Venaus a donné l'autorisation pour ces travaux. Le projet fut changé, le commencement ou fin du tunnel fut déplacé à Chiomonte, qui n'est pas dans la basse vallée, c'est déjà dans la haute vallée, où il y a un maire qui... une administration du commune qui a donné l'autorisation. Et en même temps, le projet a été passé du côté droit, du côté, excuse-moi, gauche de la vallée au côté droite. Un fait intéressant que je pense que le public français ne connaît pas, c'est qu'on... on fait un grand trou dans les Alpes, mais quand on sort dans la basse vallée de Souza, on ne poursuit la ligne au dehors, mais on continue en tunnel dans les montagnes du côté droit. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus, il y a un coût beaucoup plus haut. Mais pourquoi on doit faire comme ça? Parce que la basse vallée de Souza est déjà surchargée d'infrastructures. Il y a deux routes nationales, l'une qui va au Mont-Cenis, l'une qui va au Mont-Cenis, l'autre au Mont-Genèvre. Il y a le chemin de fer historique Turin-Fréjus, Turin-Bardonnèche-Fréjus, et des années 80, il y a l'autoroute. Alors, il n'y a plus matériellement... de l'espace pour faire passer une autre grande infrastructure, et il faut l'excaver dans les montagnes, aussi là où il y a une plaine, parce que la basse vallée de Souza peut être considérée un morceau de plaine circondato,
enserré
par entre les montagnes, mais il est plein, mais on ne peut pas bâtir sur cette plaine, parce qu'il n'y a plus de place. Et ça devrait déjà dire quelle est la charge de l'anthropisation dans ce coin de monde.
Et alors, quelle est la finalité de ce TGV?
La finalité officielle, c'est de risparmier. D'aller de Turin à Lyon, ou si on préfère de Milan à Paris, en quelques minutes de moins que maintenant, la finalité officielle, quelques quarts d'heure, quelques demi-heures, mais en coût d'argent beaucoup plus haut. Et la finalité est de trouver une colocation pour l'excédent de capital que les grandes entreprises de bâtiments italiens ont, je pense que c'est le même pour le côté français, et de trouver une colocation pour ça.
D'accord.
C'est ça, simplement.
Et vous me disiez, enfin tu me disais que, donc en Italie en ce moment il y a une forte contestation.
Oui, assez fort, parce que après la bataille de Venance de 2005, les choses se sont devenues pour 5 ans, sont restées plus tranquilles, tandis que les autorités élaboraient le deuxième projet, côté droite de la vallée. Il est intéressant de rappeler que ce projet contient quelques prévisions qui, au temps du premier projet, on avait dit « Ah, mais ça, on ne se peut pas faire sur le côté droit parce qu'il y a le tel et le tel autre impact, c'est impossible. »
D'accord.
Maintenant, on peut faire sur le côté droit. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais, fermez la parenthèse.
L'opposition,
alors les choses sont restées plus ou moins tranquilles de 2005 à cet été, plus ou moins. Il y a eu toujours des discussions. L'observatoire qui avait été constitué comme lieu de médiation politique entre les autorités et les populations de la vallée, considérées comme tout, mais dans les derniers mois, on y était admis seulement les communes qui étaient favorables à l'œuvre. Les maires contraires ont été exclus, et la communauté montaine aussi a été exclue. Et elles sont restées à peu près plus ou moins tranquilles jusqu'à l'été dernier, quand le projet est arrivé dans ses phases finales, quand il y a eu plusieurs rencontres entre le ministre des infrastructures italien et français, et quand on est entré dans la phase pratique, dans la phase finale de la projetation et au commencement à ce que devrait être le commencement de la phase pratique. Alors la nouvelle ère où devrait commencer le tunnel a été présidée par des opposants à la TAV. À la fin de juin, la police a attaqué et a déplacé ceux qui présidiaient.
Il y avait combien de personnes sur place?
Sur place, il y avait quelques centaines de personnes, mais tout s'est passé. Il y a eu deux attentes à déplacer les gens. Le premier est failli, le deuxième est réussi, mais cette fois, ils sont arrivés beaucoup plus organisés qu'ils étaient en 2005 à Venaus. Avec une autre professionnalité, si ainsi on peut dire. Et aussi, quand on a, après le déplacement des opposants, peu jours après, on a fait une grande manifestation avec à peu près 70 000 personnes arrivées de toute l'Italie. Il y avait aussi des autres opposants, ceux qui viennent de Florence, qui est une ville historique qui est déjà en train d'être traversée par une sous terre par une ligne TGV. Il y avait personnes qui venaient même de toute l'Italie. Cette fois, l'air de Chiomonte avait été occupé avec des forces imposantes, fortifiées. Et on a fait une manifestation, mais il était, au point de vue militaire, impossible de reconquérir l'air.
Et tu me disais qu'en en Italie, on invoquait beaucoup le fait que les Français, ou ici, il en est très peu question, sont favorables au projet.
Oui. Ce qu'on dit toujours, mais c'est seulement vous qui vous êtes contre le progrès. On retourne aux cavernes et comme ça, sur l'autre côté, les Français sont tout le peuple est d'accord. Ce n'est pas vrai parce que j'ai oublié de dire qu'il y a eu dans ces manifestations aussi des Français qui venaient de l'Haute-Savoie et de la région Rhône-Alpes.
Et on a une. Qu'est-ce qu'il y a comme opposition en France à ce projet? Est-ce que tu en sais un peu plus?
Non, je ne sais pas grand-chose. Je sais que sûrement, semble être moins de masques qu'en Italie, mais c'est aussi parce que les régions françaises sont beaucoup moins peuplées pour quelques dizaines de kilomètres de la frontière, il y a seulement de petits villages. Au contraire, sur le côté italien, nous, à 88 kilomètres de la frontière, nous avons Turin, mais aussi nous avons deux autres communes très peuplées, avec quelques 10 000, 12 000 habitants, comme ils sont, par exemple, à Vigliana, Bussoleno, et comme ça.
D'accord. Et comment tu vois la suite
Mais la suite, c'est difficile. La suite, sûrement, c'est difficile. On peut voir les grandes infrastructures comment on veut, mais il faut rappeler une chose. Quand on a bâti le réseau autoroutier italien, aux années 50 et 60, il ne fallait pas choisir entre les grandes infrastructures et d'autres choses de valeur civile et sociale, comme pour exemple la santé, la prévoyance sociale, l'instruction. Alors, les autoroutes, je peux aimer les autoroutes, on ne les aimait pas. Moi, personnellement, je ne l'aime pas, mais je suis un cavernicole contre le progrès. Mais je ne prétends que tout le monde pense que moi. Mais quand on a fait ce réseau autoroutier, par exemple, il ne fallait était une période de développement. Aussi, sur le développement, on peut penser ce qu'on veut, mais il ne fallait pas choisir entre cette chose. Aujourd'hui, il faut choisir parce que nous sommes dans une phase historique complètement différente. Il n'y a plus d'argent. Je sais que plus ou moins tout le monde connaît la situation italienne de ces semaines, de ce jour, avec l'attaque des marchés internationaux, de la finance, et comme ça. Tous les secteurs, les fonctions typiques de l'incidie état du bien-être, du welfare state, ont été déjà attaqués et taillés. L'instruction publique coûte toujours plus. Tu vas à un hôpital pour faire une analyse qui, il y a quelques mois ou il y a un an, ne coûtait rien ou coûtait 15 euros. Maintenant, il faut payer 30 euros, 35 euros, 50 euros. La prévoyance, on a taillé, on peut retirer toujours plus tard, avec toujours moins d'argent. L'argent pour faire cette chose, il n'y a pas. Pour faire les grandes œuvres, regarde,
même,
il y a.
Même les transports, j'ai cru comprendre que le service public des transports en Italie avait beaucoup souffert ces dernières années, non ?
Souffert en quel sens?
Que les trains n'étaient plus
le réseau existant. Oui.
Il n'a
jamais été un champion de ponctualité ni de fréquence de train. Mais sûrement, moi, dans les années 80, je voyageais sur une distance de 80 km tous les jours pour travailler. Mais si je fais le... Si je compare le fonctionnement et la qualité des trains des années 80 avec celle d'aujourd'hui, nous sommes un petit peu au-dessus du Madagascar ou de l'Inde, avec tout le respect pour le Madagascar et l'Inde.
On se demande vraiment quel sens ça a de faire un TGV dans ces conditions-là.
Mais le service, les trains sont vieux, les sièges sont taillés, les salles, et comme ça. Pourquoi ? Parce que l'administration de chemin de fer met tout l'argent qu'elle a sur la construction de nouvelles lignes, qui sont des lignes de TGV. Pour la manutention... de ce qui existe, on met toujours moins.
Ok, et bah, peut-être juste une dernière question sur l'échiquier politique. Il y a un consensus absolu sur le TGV ou...
Absolu, non. Sûrement, la droite, il y a un consensus entre la droite et la soi-disant gauche, c'est-à-dire le Parti démocratique. Quelques membres duquel est entre les plus décis sosteniteurs de la ligne Turin-Lyon. Les forces de gauche qui sont contraires sont la Fédération de la gauche, qui c'est l'héritier du vieux Parti communiste, mais qui est petit, et le mouvement 5 stelle, 5 étoiles, qui c'est le mouvement... duquel le membre plus connu, duquel elle est le cabarettiste Beppe Grillo, mais qui, en effet, au dernier, qui en effet exprime quelque chose de nouveau.
D'accord. Bon, ben, merci beaucoup.
Merci à toi.